lettre coréenne. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Park Hwa-young, Un terrain vague.
Le fait qu'il restait encore un terrain vague dans la ville était un mauvais présage. Le lot se situait au point culminant de la ville, dans un quartier entourant une longue route tristement célèbre pour sa pente abrupte. Une montée sur ce chemin menait à un terrain plat, baptisé par les habitants « plateau ». Plus les maisons étaient proches du sommet, moins elles étaient chères. Le plateau était peu pratique car il manquait de dépanneurs ouverts 24 heures sur 24 ou encore d'installations récréatives et culturelles comme des bars, des cybercafés ou encore des salles de champ privées appelées nolebang. Il n'y avait qu'une seule petite épicerie de quartier du nom de Hanalummate. Au centre de ce plateau se trouvait le terrain vide controversé. Au début, 5 ou 6 maisons voisines ont été rasées, laissant le site désert. Les gens supposaient, sans surprise, que des immeubles résidentiels de petite hauteur y seraient bientôt construits. Un mois s'est écoulé et le terrain était toujours vide. Les habitants ont alors commencé à y prêter attention. Parfois, ils y trouvaient des bouteilles d'alcool ou des tubes de colle vides qui roulaient par terre, ce qui les incitait à considérer l'espace vide comme le point de départ et le terminus de tous les crimes. Comme l'a dit le propriétaire d'âge moyen de Hanalummate, laisser le terrain abandonné dans cette ville était plus qu'un mauvais présage, c'était un péché.
Cette nouvelle publiée en 2009 se déroule dans un terrain vague dans un quartier à flanc de colline qui fera bientôt l'objet d'un aménagement urbain. Des maisons sont rasées, leurs sites sont abandonnés et des tas d'ordures commencent à joncher ce terrain. Les gens viennent tard dans la nuit et jettent les sacs noirs de contenu inconnu avant de quitter rapidement les lieux. Pire encore, certains arrivent dans un petit camion au milieu de la nuit pour y déposer un vieux canapé ou une armoire.
Les gens ne venaient sur le terrain vague que pour y jeter des ordures. Ils y brûlaient, enterraient ou dispersaient également des choses. Une femme avec des taches de rousseur sous les yeux s'y rendait souvent pour brûler quelque chose. Elle plaçait des lettres, des cartes postales ou un ours en peluche dans un baril et y mettait le feu. Un homme qui vivait dans une pièce au demi-sous-sol du voisinage s'y déplaçait fréquemment tôt le matin pour enterrer des objets inconnus. Il portait toujours une pelle et quelque chose de la taille d'un corps humain enveloppé dans du plastique noir.
Puis il y a une vieille dame qui saupoudre du sel sur tout le temps, nuit et jour. Avec les ordures arrivent les chats. Les félins ne tardent pas à envahir tout le quartier. Chaque nuit, ils se disputent pour savoir lequel dominera tous les autres. Lorsqu'ils sont en chaleur, ils produisent des miaulements rauques. Surtout quand il pleut ou le vent souffle fort, les bruits ressemblant à des plaintes font dresser les poils sur la tête de les habitants.
La personne qui avait le plus de mal à supporter ce son était une locataire trentenaire du troisième étage d'un petit immeuble à logement multiple qui se tenait juste à côté du terrain vague. Une nuit, la femme insomniaque n'en pouvait plus et a lancé sa chaussure à talons aiguilles par la fenêtre vers les chats avant de se recoucher. D'habitude, lorsque les gens lançaient des objets ou leur criaient dessus, les félins se dispersaient un moment mais ils revenaient reprendre leur cœur affreux. Mais cette nuit-là, étonnamment, les cris des chats se sont aussitôt arrêtés. Le lendemain matin, juste avant de partir au travail, la femme s'est rendue compte qu'une de ses chaussures manquait. Elle a lancé des invectives contre les chats avant de se précipiter vers le terrain vague. Là, elle a compris pourquoi les animaux ont été réduits au silence si rapidement la veille. Le talon pointu de sa chaussure était enfoncé dans la tête d'un chat mort. La vieille femme, venue saupoudrer du sel, a découvert la bête morte. Après avoir retiré la chaussure à talons aiguilles du crâne de l'animal, elle a parsemé de gros sels blancs sur tout son corps. Celui qui a donné du repos au pauvre félin était l'homme vivant dans un demi-sous-sol. Ce soir-là encore, il tenait une pelle et quelque chose enveloppé dans du plastique noir dans un bras et une lampe de poche dans une main, alors qu'il avançait d'un pas traînant vers le terrain vide. Lorsque le chat mort, gisant dans l'obscurité, s'est présenté à sa vue grâce à sa torche électrique, il a regardé curieusement les cristaux blancs grossiers parsemés sur tout le petit corps. Mais il n'a pas tardé à se mettre à creuser le sol à côté du chat. Quand il a fait un trou juste assez grand pour l'animal, il a poussé le corps de celui-ci avec sa pelle avant de le recouvrir de terre et de lisser la surface.
Le lendemain, il pleut toute la journée. La pluie révèle non seulement le corps du chat mort, mais aussi beaucoup de choses que les résidents ont enterrées. Une semaine plus tard, le cri d'une femme perce l'air du petit matin. Le son vient du terrain vague, où une femme, venue jeter les ordures, a découvert un bras humain sortant du sol. C'était en fait un bras de mannequin, mais un jeune homme se précipite vers elle. C'est un étudiant en master en archéologie qui vit seul dans un studio près du site. Il étudiait très attentivement le terrain vide, comme s'il fouillait un vestige de la civilisation maya. Écoutons la critique littéraire Chen Soyang, qui nous en dit un peu plus sur les personnages de cette nouvelle.
Les personnages sont tous dans la même situation. Ils ne peuvent pas se permettre de vivre dans des quartiers sûrs et aisés. Faute de moyens, ils se sont installés dans cette zone vallonnée de la ville qui sera bientôt réaménagée. Ils font toutes sortes de choses étranges sur le terrain vague. Qu'est-ce qui les pousse donc à se comporter ainsi ? C'est parce que ce sont des gens pauvres et solitaires, ostracisés par la société. Ils risquent d'être chassés de ce quartier à tout moment. Leur maison et le terrain vide se situent dans une zone dangereuse, mais la mairie ignore leur sort. Ce récit crée une ambiance effrayante avec les comportements étranges des personnages, mais ce qui est vraiment terrifiant est la réalité dans laquelle ils se trouvent.
Depuis que la pluie a déterré le mannequin, pas une seule goutte de plus ne tombe, alors que d'épais nuages couvrent toute la ville pendant une semaine. Les météorologues affirment qu'un front de mousson tardif s'est formé à cause du changement climatique.
Pourtant, les prévisions météorologiques de cette année-là, particulièrement tumultueuses, semblaient inquiétantes pour certains, tandis que d'autres pensaient à des lettres noires qui pourraient arriver chez eux un jour à l'improviste. Ces missives étaient également appelées « notifications des ténèbres », un surnom à la fois puéril et pompeux. Cependant, la dénomination était quelque peu raisonnable, car ces lettres étaient connues pour être livrées en secret depuis les ruelles. En recevoir une signifiait deux choses. La première était qu'une personne avait emprunté de l'argent à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû contacter, et la seconde était que le débiteur n'avait plus besoin de rembourser le prêt.
Un jour, une odeur de brûlé émane du terrain vague. La femme, incline à tout brûler, a mis le feu à un bras humain.
La femme aux taches de rousseur sous les yeux a exercé le droit de garder le silence quand les inspecteurs lui ont demandé pourquoi elle ne s'était pas enfuie. Bien sûr, elle n'a pas avoué à qui appartenait le bras dans le baril. Elle s'est contentée de dire qu'à chaque fois qu'elle pensait à lui, elle se rappelait toujours ses bras minces et féminins. Les inspecteurs enquêtant sur l'affaire n'avaient jamais recherché un manchot avec un bras mince et féminin. Ainsi, ils sont arrivés à une conclusion naturelle et raisonnable. La femme avait tué son amant et jeté le corps après lui avoir coupé un bras pour le brûler plus tard. Le terrain vague a été creusé de partout. Des gens du quartier sont venus voir les policiers pelleter le sol. Parmi eux se trouvait la vieille dame qui saupoudrait du sel, l'homme qui enterrait des objets enveloppés dans du plastique noir, l'étudiant en archéologie et le propriétaire d'âge moyen de Hanalun Mat. La vieille femme a jeté du sel sur les agents de police qui creusaient le terrain en marmonnant quelque chose d'inintelligible. Elle a fini par être traînée par deux policiers et forcée de monter dans une voiture de patrouille.
Des déchets alimentaires, le corps décomposé du chat, un four à micro-ondes cassé, une télévision en panne, une roue de vélo. C'est tout ce que les policiers ont trouvé après 5 heures de fouille. Ils ont également déterré 6 mannequins, mais aucun corps humain. L'affaire commence à disparaître des mémoires des habitants et le terrain est de nouveau fréquenté par des gens venant jeter des ordures. Un soir, 3 berlines noires arrivent sur le plateau. Des hommes en costume noir sortent des véhicules et se dirigent vers les immeubles où habite le propriétaire de Hanarematte, l'étudiant en archéologie et l'homme qui enterre des objets dans le terrain vide.
À cette heure-là, le propriétaire de Hanarematte faisait discrètement ses valises dans l'obscurité. Une enveloppe noire, ouverte, reposait sur le comptoir. Soudain, la porte vitrée de l'épicerie s'est ouverte silencieusement. L'homme d'âge moyen était sur le point de crier lorsqu'un intrus l'a aspergé de liquide laiteux provenant d'une bouteille. Son visage s'est immédiatement transformé en quelque chose de dur, comme du plastique. Un autre groupe d'intrus est entré dans le studio de l'étudiant en archéologie. Sur son lit se trouvait une jambe humaine coupée, illuminée sous le clair de lune. Ils ont trouvé dans le placard un mannequin auquel il manquait une jambe. Le dernier groupe est allé chez l'homme qui n'arrêtait pas d'enterrer des choses à l'aube. Il dormait sur le côté, nu, tout près d'un mannequin. Il s'est réveillé en se frottant les yeux, puis a commencé à s'habiller après avoir hoché la tête, comme pour indiquer qu'il avait compris. L'un des envahisseurs tenait dans ses bras le mannequin sur le lit. Les intrus qui avaient accompli leur mission se sont rassemblés sur le terrain vague. Des yeux jaunes clignotants les fixaient depuis les coins. Quand une paire de ces yeux s'est jetée sur eux, un grand type l'a frappé avec son poing. Le chat qui s'était lancé sur les intrus est mort sur le coup, la colonne vertébrale brisée. Le grand type a cassé un poignet du mannequin que l'un des intrus avait apporté et l'a jeté par terre. Du sang en suintait sous le clair de lune. L'homme l'a enveloppé dans un morceau de tissu et l'a mis dans sa poche. Ils sont remontés dans les berlines, puis ont discrètement disparu du plateau.
Retrouvons une nouvelle fois la critique littéraire Chen Soyang qui nous explique en quoi consistent ces incidents étranges.
Les hommes en berline noire sont probablement associés au projet d'aménagement urbain. Pour vider et démolir le quartier, ils ont sans doute obligé les habitants à contracter des emprunts privés ou exercer des pressions sur eux pour qu'ils déménagent. À chaque visite, les personnes vivant autour du terrain vague disparaissent. Certains choisissent de se suicider ou de s'enfuir alors que d'autres sont tués. Les mannequins semblent représenter les résidents disparus. Même si les gens ne sont pas vraiment décédés, ils ont été expulsés de leur maison, ce qui symbolise la mort.
Le lendemain, le quartier plonge dans le chaos dès que les habitants découvrent que 3 résidents ont disparu. Cependant, des annonces immobilières ou des prospectus publicitaires sur les prêts à faible taux d'intérêt recouvrent en moins d'une semaine les affiches de personnes disparues. Peu de temps après, un dépanneur ouvert 24 heures sur 24 remplace le Hanarematte.
Ensuite, un panneau d'affichage d'un permis de construction a été planté sur le terrain vague. Les habitants ont été soulagés que les problèmes qui les tourmentaient aient finalement été résolus. Les clôtures ont rapidement été installées et les chats ont été chassés. Le silence était roi sur le site où les sons maussades des vents et des chats qui miaulaient avaient régné la nuit. Les félins ont été dispersés dans le quartier, mais ont été ensuite retrouvés morts un par un. Les résidents étaient convaincus que quelqu'un les empoisonnait. Le lendemain de la disparition du dernier chat, une femme s'est jetée du haut d'un immeuble près du terrain vide. Une paire de chaussures à talons aiguilles et une lettre d'adieu ont été retrouvées sur le toit. Dans la lettre, la défunte a écrit « Les yeux des chats me hantent toujours alors que je ne les entends plus ». Une semaine plus tard, le terrain vague a été lissé et une épaisse couche de ciment a été versée dessus.
Le quartier semble reprendre peu à peu une vie normale. Voici Park Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui nous explique le message de l'auteur.
Le terrain vague est un dépotoir destiné à recevoir les restes de la vie épuisante et sans joie des habitants du quartier. Mais le site est maintenant pavé et tout est oublié. Des routes, des appartements et des magasins seront construits sur des ruines et les gens qui occuperont ces lieux vivront heureux, tandis que la ville cache quelque chose de grotesque. L'auteur dit que nous pouvons vivre avec la dépression et l'épuisement, mais tout cela peut être dissimulé par les centres commerciaux, les appartements et les routes pavées.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Park Hwa-young, Un terrain vague. C'était Yun Yen-yu au micro avec Maxime Lalo au doublage et Kim Hong-joo à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle Coréenne la semaine prochaine. Au revoir.